voit les premiers gros morceaux de glaçons et au loin la banquise toute disloquée, donc le pack de glace quoi.
Communication de la Passerelle, nous venons de franchir le cercle polaire antarctique.
On vient de croiser une baleine, on a vu nos premiers manchots empereurs, nos premiers phoques, quoi. C'est, sans parler des oiseaux, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire quoi.
Enfin, il n'y a rien de plus qui ressemble à un iceberg qu'un autre iceberg, mais c'est grandiose quoi, de voir tout ça, tous ces manchots là partout, c'est juste incroyable.
Quand même, en voyant ça, ça doit quand même aider à vouloir défendre la planète quoi.
Je sais pas, je dirais que j'ai la tête vide là, je suis juste super calme, puis super apaisé. Je sais pas, je me sens tout petit et j'ai un peu froid aux mains.
Donc voilà, on est là sur l'île du Lion, et on va aller sur l'île des Pétrelles sur laquelle il y a la base de Dumont d'Urville. Bienvenue, on est content de vous voir.
Un été en Antarctique. Nicolas Martin, Yvon Croisier. Dixième et dernier épisode. Comment se dire adieu ?
Vendredi 15 décembre, après une semaine passée sur la base du Mont d'Urville, il est déjà temps de remonter à bord de l'Astrolabe pour rejoindre l'autre continent, celui où est la société, le monde, qui n'a pas cessé de tourner. Même après un an ici, où la TA-68 pour Terre Adélie, équipe 68, a été isolée pendant plus de 9 mois, il est temps de céder la place à la TA-69. Et non seulement il n'est pas facile de quitter le continent antarctique, mais ça l'est encore moins lorsque le groupe qui s'est soudé pendant toutes ces longues semaines de nuit polaire part en plusieurs morceaux, en plusieurs fragments. C'est la dernière journée sur base, les visages sont fermés, les conversations privées, et l'émotion est déjà palpable plus de 24 heures avant d'embarquer.
Est-ce que vous êtes en train de faire quoi, hein ?
Alors avec Delphine, on fait deux banderoles, vu qu'on reste et que la plupart de la TA-68, les membres de notre mission partent avec le bateau demain matin. On fait deux banderoles pour déclarer notre amour un peu et tout ce qu'on a vécu.
Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur ces banderoles ?
Alors sur une, c'est l'importance et l'amour. C'était une des phrases de campagne de la Midwinter. Et sur l'autre, c'est « Le temps était bon, le ciel était bleu ». C'est une reprise des paroles de...
Isabelle Pierre.
C'était notre rythme. C'était notre rythme un peu.
Donc vous avez vraiment l'intention de faire pleurer tout le monde en fait.
Ouais, mais le but c'est ça, c'est de verser le plus de larmes possible. Il faut un peu extérioriser les sentiments, je pense. Et puis bah après il va y avoir le dîner et on va passer toute la soirée et la nuit ensemble. Essayer de se tenir éveillés les uns les autres. Et après en fait les hivernants sortant, rendez-vous à 7h au séjour pour récupérer leur passeport, prendre leurs affaires. Et embarqué sur le bateau à 7h30 qui appareil à 8h. Donc voilà, donc on va les accompagner sur le quai et puis faire des adieux un peu déchirants, je suppose. Je me le suis dit et répété à moi-même, il y a une partie de moi qui part avec eux.
Bon Christophe, c'est certainement la dernière fois que je vous embête, vraisemblablement, de ces 15 jours.
Oui, mais c'est pas grave, enfin, tout va bien. Ça fait quoi, 2 semaines qu'on se côtoie ?
J'ai l'impression que ça fait des mois.
C'est vrai, c'est souvent... Bah, en fait, ouais, je pense que c'est lié au fait qu'on n'a plus aucun référentiel connu. Ça oblige en fait à créer des liens forts entre les personnes, quoi.
Quelque chose des affinités électives, du coup, comme effectivement on n'a plus de repères, on se rabat rapidement sur les gens... en qui on reconnaît quelque chose, avec qui on trouve des atomes crochus, et on crée des liens tout de suite plus forts que ce qu'on créait dans un environnement normal.
Ah oui, c'est bien analysé, dis donc, effectivement. Parce que j'allais dire rabattre, c'est un peu péjoratif comme terme, donc j'aurais pas choisi celui-là. Cela dit, il y a peut-être une question un peu de nécessité, mais c'est surtout, en fait, t'as pas de repère culturel, etc. Donc ceux qui en ont un petit peu, clac, tu t'accroches à eux, et forcément, tu crées des liens très forts. Non, c'est vrai. C'est un truc qui reste à vie et une expérience indéboulonnable. On est tatoué, comme on dit.
Au fer rouge.
Au fer rouge. On est tatoué au fer rouge par l'hivernage. Rien que le fait de vouloir revenir, même l'été, même si on sait que ça va pas être exactement pareil, c'est parce qu'en fait, on est à la recherche de cet état de plénitude qu'on a connu et on a envie de le retrouver. Et on le retrouve un peu quand même l'été, même s'il y a tout ce monde. Isabelle aussi disait hier, je sais plus comment il s'appelle, mais bref, un de ses chefs à Grenoble qui l'a envoyé ici, lui a dit j'ai mis 10 ans à pouvoir refaire un hiver. Il en a fait deux, j'ai mis 10 ans à pouvoir en refaire un. Avant d'avoir digéré le premier, ça va dans le sens de il faut du temps pour digérer ce truc qui a un impact en fait énorme et qu'on met du temps à mesurer, je pense.
On est où, Audrey ?
Dans la cuisine.
Elle est toute calme, elle est toute rangée.
Ouais. Elle n'a pas été toujours rangée pendant notre année avec Abel, mais...
Bon, alors, cette dernière soirée, ça se passe comment ?
Ils ne savent pas trop. Non, c'est bizarre. C'est bizarre. Ouais, on a un peu du mal à se mélanger aux autres, quand même. On se rend compte qu'on est un peu devenu autiste, mais ça va revenir, tranquillement, petit à petit. On profite un peu des personnes qu'on ne sait pas trop si on va les revoir après ou pas, si de tout ça. Donc c'est un peu pour ça, je pense qu'on a un peu ce repli sur soi entre 68. Je pense qu'on en a un peu besoin aussi.
Pour vous, vous allez continuer un peu avec les autres là. Vous, j'ai cru comprendre que vous partiez en voyage avec un petit groupe de 68ards.
Ouais, on est 7 personnes là à partir en Tasmanie un peu après avec ses cadeaux sur le dos et puis on verra bien ce qui se passe. Ouais, je... Voilà. Ça fait tout drôle.
Christophe Dos Santos a déjà passé un hivernage à la station Concordia sur l'autre base à l'intérieur du continent. Il va rester quelques semaines de plus à DDU pour finir d'installer sa manip.
Je me répète, mais on met du temps à comprendre ce qui nous a marqué, ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, ce qui nous a vraiment marqué. On pense, quand on part d'ici, souvent, on a une petite rengaine envers ses petits camarades qui nous embêtaient pendant l'hiver, etc. Ceux avec qui on s'est pas entendu, ceux avec qui on s'est très bien entendu. Et en fait, au bout d'un moment, tout ça, ça s'efface. Et on garde quand même beaucoup plus d'intime et de solitude. Peut-être que c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le côté collectif qui est la première chose qu'on imprime. Qu'on comprend très vite, puisque voilà, ça a vraiment drivé tout l'hivernage. Mais la part solitaire, elle est plus difficile à détacher du reste, et c'est celle-là qui met du temps à mûrir, à décanter, et c'est celle-là qu'on apprend à apprivoiser. Et justement, d'ailleurs, je profite de ces moments où on est seul et un petit peu isolé du groupe, parce que c'est un peu le souvenir, je pense, qu'auront les hivernants en rentrant, quoi. C'est cette quiétude qui peut aussi être une angoisse. Enfin, je veux dire, c'est un hivernage, c'est une expérience assez complète. Donc, il y a des moments de doute difficiles, etc. Mais quand même, on s'en rend compte, surtout au début de la campagne d'été, que la quiétude qui nous a porté pendant 9 mois, 8 mois, enfin bref, en fonction de l'hivernage, est très, très précieuse. Et c'est vraiment là que se situe la clé. Et c'est après c'est un truc... 20 000 fois plus particulier que venir juste en été, et c'est là-dessus qu'il faut capitaliser, parce que c'est un moment assez quand on le fait assez jeune. Moi, je considère avoir fait jeune, oui, j'avais 26-27 ans. On apprend de soi de façon incommensurable. C'est tellement riche qu'en fait ça peut servir dans la vie civile, entre guillemets, et c'est une source intarissable d'expérience. C'est très dense, en fait.
Je lui ai dit oui parce qu'il n'y avait pas d'image.
Oui, parce que... D'accord, vous pouvez me raconter, juste me décrire en quelques mots cette chambre pour qu'on essaye d'avoir l'image.
Petite, mais bah, comme on n'y est pas souvent, en fin de compte, c'est pas très grave. On est plus dans nos labos ou au travail. Donc il y a un petit lit simple avec un lit au-dessus qui se rabat. Et nous avons donc deux placards, donc tout seul c'est nickel d'avoir deux placards. Et un grand bureau pour pouvoir travailler avec une fenêtre. Donc on est soit vu mer, enfin mer, banquise, soit vu sur le séjour.
Audrey Tesser, technicienne LIDAR.
Moi, la différence des autres, c'est que je suis vraiment toute seule dans mon labo. Puis je travaille en décalé des autres, donc je suis tout le temps toute seule.
Il y avait un piano dans le laboratoire de LIDAR, vous avez emmené votre violoncelle aussi. Vous avez pu jouer un peu des deux?
Alors le piano, c'est moi qui l'ai acheté et livré directement à l'IPF pour qu'il l'emmène. Et oui, je travaillais pas mal. Bah, faut bien entretenir un peu, quoi.
entretenir parce que c'est votre profession principale, ça restera votre profession principale quand vous allez retourner en métropole?
Oui, ça restera tout le temps ma profession. Je donne des concerts avec ma sœur ou avec en formation sonnette, violoncelle, ça dépend.
Il y a juste à ma droite une partition de Bach sur l'oreiller.
Oui, c'est les préludes et fugues de Bach pour piano. Je sais les suites pour violoncelle, mais elles ne sont pas là.
Ça y est, c'est fait, les bagages, il n'y a plus rien à faire? Il y a encore un peu de boule, hein.
Si, il y a encore des trucs à mettre, mais c'est maintenant, il faut agencer parce qu'elles sont toutes pleines. Donc il y a des shows à faire.
Vous repartez avec quel sac, avec combien de sacs?
J'ai donné une valise à Éloi, justement, où il y a toutes mes partitions. Et moi, vu que j'ai mon violoncelle qui fait 15 kilos, j'ai le droit qu'à 15 kilos de bagages. Donc j'ai juste une valise et j'ai un sac à dos avec mon portable.
Le départ, vous l'appréhendez comment, Audrey?
Je pense que c'est bien qu'il y ait des gens qui arrivent après l'hiver, comme ça on a envie de rentrer. Parce qu'une campagne d'été après une campagne d'hiver, c'est toujours un peu lourd. Alors que si on devait partir directement après l'hiver, je crois que ce serait un peu violent, on va dire. Ouais, parce qu'on est habitué à vivre à 24 et que de voir des gens arriver qui n'ont pas du tout les mêmes modes de vie que nous, parce que nous, on a instauré notre petite vie aussi ici. On n'a rencontré personne pendant 9 mois. Donc déjà, rencontrer des gens, c'est en même temps bien. Ça fait plaisir parce que ça manque aussi pendant l'hiver. Mais en même temps, c'est un peu... Voilà, ici, on est un peu à l'étroit aussi. C'est pas... Donc oui, du coup, on est content de rentrer. Je pense que tout le monde est assez content de rentrer. Moi, je vais rentrer directement, mais... En fait, ce qui est compliqué, c'est de se dire qu'on ne revivra jamais ça. Parce que même si on repostule, on ne sera pas avec les MNTA. Donc tout sera différent. Et le fait que quelque chose soit vraiment fini et qu'on n'y aura plus du tout accès, c'est ça qui est un peu, je pense, triste.
Vous avez le sentiment que vous reviendrez, que vous allez essayer de revenir en Antarctique, ou c'était un one-shot?
Non, je pense pas, mais c'est pour des raisons écologiques. Je pense que c'est une aberration que l'homme vienne ici, mais après ça reste personnel. Je m'en suis rendu compte en fait ici quand on voit tout ce qu'on génère comme gaz, comme pour pas tant de science que ça finalement.
Mais du coup, vous continuez ce double cursus qui est le vôtre, c'est-à-dire le cursus musique-science, vous allez au bout de votre thèse. C'est quoi le point de jonction entre la musique et les sciences et la technique hyper pointue que vous manipulez?
La musique, c'est aussi une technique hyper pointue. Et c'est juste complémentaire d'avoir un côté scientifique et un peu plus cartésien. C'est bien de faire les deux. Et si je fais une thèse, parce que c'est une opportunité que je saisis, comme le fait de venir ici.
Il y a quelque chose que vous allez emporter particulièrement d'ici, quelque chose de matériel?
Des cadeaux qui m'ont été offerts, qui ont été fabriqués sur place. Je ne vais peut-être pas voler des choses non plus, mais...
Un manchot.
Ouais, j'aurais pas le droit de le dire si c'était le cas. Donc. Non, mais même des plumes ou même des cailloux, c'est interdit d'en ramener. Même des coquilles d'œufs, on n'a pas le droit d'emmener des choses en dehors de l'Antarctique.
Qu'est-ce qui va vous manquer le plus ici?
Quand je serai en métropole, de travailler la nuit. D'être autonome, d'avoir un instrument pour moi, enfin que je gère de A à Z. C'est quand même... une bonne chose. Et puis bien sûr, oui, la Terre, en quelque sorte, on a quand même vécu un truc ensemble qu'on vivra jamais, mais c'est comme ça.
Bonsoir Corentin.
Bonsoir Nicolas.
Comment ça se passe cette soirée?
C'est assez spécial étant donné que c'est notre dernière soirée sur base et surtout les derniers instants qu'on va passer avec le plus gros de notre mission. On s'est dit qu'on allait faire une nuit blanche, donc il faut tenir éveillé. Donc on sort la tête dehors, on va aider les copains qui bossent. On profite du paysage parce que là on est en jour polaire, du coup il fait jour tout le temps en fait. Et là le soleil est en train de se relever au-dessus du continent, on peut le voir là qui se lève, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, on s'amuse. En demi-teinte, parce qu'on attend aussi en fait le moment où du coup la libération va arriver un petit peu, hein, parce que
la libération.
Disons que bon, il y a voilà une sorte d'accumulation de sentiments un petit peu contradictoires, un petit peu mix de la part de tout le monde, surtout de ceux qui partent en fait. Typiquement, l'envie de rester parce qu'on a vécu énormément de choses ici. Et en même temps, l'envie de partir parce que l'hivernage est fini, la campagne d'été est très mouvementée, peut-être trop pour certains. disons qu'il y a une amplification ouais, des sentiments de tous les sortants. Et de nous aussi, parce que nous, on reste. On reste. Mais du coup, avec des gens qu'on connaît moins, qui ne sont pas notre famille. Et du coup, ça va être un peu plus bizarre. Ça va être un peu plus étrange. Donc voilà, là où j'en suis dans mon introspection personnelle de la soirée, à 1h55 du matin. Donc encore 5 heures de veille.
On imagine l'hivernage comme vraiment quelque chose de l'ordre de l'isolement, alors qu'en fait c'est un lien collectif finalement qui est peut-être plus fort que le sentiment d'isolement qu'on peut imaginer de l'extérieur.
C'est ça, c'est un peu paradoxal, parce qu'on est 24 sur une île prise dans la banquise, avec pas une âme à des milliers de kilomètres aux alentours, et pourtant j'ai rarement, voire jamais été aussi sociable, était aussi intime avec autant de personnes à la fois. Une vraie famille, tout le monde connaît un petit peu les petites routines de chacun. On a tous un peu des coups durs de temps en temps, on voit directement que ça va pas, on connaît vraiment ces personnes-là en fait. Et du coup, bah, c'est vrai que les voir partir, en fait, c'est une partie de nous qui part, forcément. Ouais, c'était Paul-Émile Victor, je crois, qui disait le terme de famille polaire, qui retranscrit assez bien en fait l'idée qu'on peut se faire. Des liens qui nous unissent en fait, et en fait avec cet environnement qui est complètement fou, qui est complètement dingue et qui nous éblouit chaque jour, ou alors qui tente de nous tuer littéralement avec du 200 km/h de vent, tout ça, ça nous resserre tellement en fait. C'est ça qui nous forge, et vraiment c'est l'unité. Je dirais pas que c'est non plus la rudesse du climat ou de la vie ici, parce qu'on vit quand même de façon assez confortable, même si effectivement on a passé des mois assez difficiles, notamment à cause du manque de lumière, à cause des tempêtes incessantes. Et je pense que c'est ça qui forge vraiment ce qu'on est aujourd'hui, quoi.
Vous sentez d'ores et déjà que ça vous a changé, cette expérience, ou c'est trop tôt?
Ouais, ça m'a changé, ouais. J'ai pris l'habitude, ça fait quelques années, de faire un journal, de suivre un petit peu mes émotions au jour le jour. Et quand je lis ce que j'étais il y a un an, je me reconnais pas.
Bonsoir Quentin.
Bonsoir.
Comment ça va ce soir?
Ça va bien. Bah, ils vont bientôt partir. Donc ça va faire un peu bizarre. Je crois que je me rends pas vraiment compte encore que voilà, il y a plus de la moitié de la TA qui sera plus là dans quelques heures. Ça va vraiment faire bizarre parce que après avoir passé tout un hiver avec eux, bah, c'est quand même bien habitué à eux et bah, ils font partie de notre quotidien. Quoi. On vivait vraiment tout le temps ensemble et c'est pas évident de changer de collègue de vie, parce que là c'est pas des collègues de travail, c'est des collègues de vie. Quoi. Tout à l'heure, il y a un de la TA69, donc la nouvelle équipe qui est arrivée, qui m'a dit « Alors, tes potes, ils partent ?» Et dans ma tête, je me suis dit « Mais non, mais c'est pas mes potes. C'est pas des amis que j'ai choisis, que j'ai rencontrés un tel jour. C'est un jour, je suis arrivé sur une base et en gros, voilà, bah, tu passeras l'hiver avec ceux-là, quoi. J'ai choisi personne. » Mais c'est pas parce que j'ai choisi personne que je me suis pas hyper bien entendu avec des gens et que on se reverra forcément, mais ça restera les hivernants de la 68 et j'ai vraiment vécu avec eux. Tous mes potes, j'ai pas vécu avec eux comme j'ai vécu avec ceux de la 68, quoi. À l'autre bout du monde pendant 8 mois.
Et qu'est-ce qui vous manquera le moins de tout ça?
Je suis quand même content de retrouver ma famille. Et mes potes, du coup, aussi, de France. Voilà, je viens d'un petit village où il y a mes cousins, mes oncles et tantes, la grand-mère, les deux grand-mères qui sont pas loin. Et du coup, bah forcément, quand on va revenir, ça sera les gros gueuletons et il faudra expliquer, faudra montrer des photos, faudra faire tout ça. Mais ça va être fatigant, mais ça va vraiment faire plaisir quand même.
Vous pensez que vous pouvez partager ce que vous avez vécu cet hiver avec les gens en métropole, justement avec votre famille, avec vos amis?
Les gens se feront peut-être une idée, mais enfin, faut vraiment le vivre quand même pour voir le sentiment ce que ça fait vraiment à l'intérieur de nous, quoi. Mais on essaiera d'expliquer au plus juste. Voilà.
C'est le truc le plus difficile et en même temps on n'a pas toujours envie de révéler toute son intimité, donc c'est pas grave. Sauf que le seul truc qui est compliqué, c'est que quand on rentre, j'entendais petite Audrey qui disait c'est chouette parce que mon copain il a déjà hiverné, donc au moins je sais qu'il va pouvoir me comprendre. C'est qu'on est dans une phase de stress, de reconstruction, de machin, de truc. Et en fait, nous-mêmes, je pense qu'on a du mal à l'expliquer, à le formaliser, à le verbaliser. Et l'incommunicabilité, mais c'est exactement ça. Oui, en fait, on n'arrive pas à le dire. C'est hyper difficile de communiquer sur sa vie intérieure. Et c'est vrai au quotidien, c'est vrai sans hivernage. Sauf qu'un hivernage, c'est une année entière de vie intérieure qu'il faut éventuellement pouvoir communiquer, ou en tout cas faire comprendre que c'est pas communicable à ses proches. Et ce moment-là est un peu clé, un peu compliqué.
Il est quelle heure ?
4h.
C'est un peu tôt, non ?
Non, mais tout le monde est content, là, tu vois, c'est...
Bah non, on a fini la journée... Normalement, on a fini fin de chantier, là, ouais, donc c'est fin de la journée, samedi, 4h.
Laurent Père, le nouveau responsable technique de la TA69.
Donc, voilà, on se lâche un peu. Donc, ce soir, grosse soirée, semblerait-il. Et demain matin, au revoir de la TA69 à la TA68. Parce qu'on voudrait vraiment être sûr qu'ils partent. Ouais, voilà. Car on voudrait un peu être chez nous, là, quand même. Par contre, je pense que tous, on aura un petit pincement au cœur de se séparer, parce qu'en une semaine, il me semble qu'on a tissé quand même des liens très forts. Alors bon, les gens qui vont entendre ça vont dire « Mais c'est pas possible, en une semaine, on peut pas tisser des liens forts. » Si. L'Antarctique, ça vous remue, ça fait des choses qui sont inconcevables au continent. Et puis demain matin, 7h30, tout le monde en bas et tout le monde a versé sa petite larme pour dire au revoir. Et puis je pense que quand la porte du bateau va se fermer, je pense que là ça va être une nouvelle aventure. Allez Mac. De toute façon t'as notre adresse mail.
Salut toi. T'inquiète pas.
Salut Mac. À bientôt. Ouais, on se retrouvera en France. T'inquiète.
Merci.
Salut. De rien. Salut.
Allez tchuss man. T'as de la chance déjà d'être venu.
C'est Adrien.
Ouais c'est moi.
Adrien, je viens de voir ton nom, t'es où, casé où ?
Paniel.
Ouais. À voter !
C'est bon.
Bon retour au pays.
Salut Martin,
à bientôt.
C'était cool. Ouais. Une semaine et toi, c'était bien, on a passé un moment. Et puis, une prochaine heure. Hein.
Pareil, profite bien.
Ouais, ça va le faire.
Sois pas trop malade. Ouais. Jeune homme, bon retour. Prêt à embarquer ? Vous avez tout ce qu'il vous faut. À voter !
Qu'est-ce qui se passe, Romain, là ? Pourquoi tout le monde crie ?
Je pense qu'ils ont démarré les moteurs.
Et donc ?
Et donc, voilà, ça y est, hein, on va commencer à partir.
Oh, prud'homme ! On sourit un peu, là ! Oh ! Fais-la péter !
Petite goutte de champagne pour la fin ?
Oh ! Bon, voilà, on a ouvert le champagne, on se casse.
Donc, Hélène Larmet, chef de district de la TA68.
Ex-chef de district,
je veux dire. Comment ça va ?
En transition. Lost in translation. C'était une belle aventure. On n'est plus à une époque où on va vivre des aventures, des terres de découverte, tout ce genre de choses. Donc c'était une aventure humaine. C'était bien ce que j'en attendais. Je savais que ce serait à la fois la force et la faiblesse de cette année-là, c'était l'humain. Générateur de grandes joies, de grandes déceptions, de grandes tristesses, de grandes satisfactions. Comment ça s'est passé ? C'est un petit peu difficile, il faudra que j'arrive à me débarrasser de la peau du dista pour ça. C'est quand tu entends Audrey dire « il va falloir que je remette les filtres avant la vraie vie », moi c'est le contraire. C'est un peu le propre de ce rôle-là. D'ailleurs, si on dit le rôle du chef de district, j'ai l'impression que ça signifie plein de choses derrière. J'ai effectivement eu l'impression d'être un peu au théâtre par moment. Bon, on a des profils de personnel qui sont aussi très jeunes. Et ça faisait partie d'ailleurs d'un petit peu de mes curiosités et une des motivations. Donc une population assez jeune qui éventuellement va se lâcher encore un peu plus dans ce type de cadre. Et effectivement, le rôle du chef de district, c'est plutôt d'être le papa, c'est lui qui va donner le cadre. Et puis le médecin, plus la maman, l'écoute attentive, les moments où ça va moins bien, où ça va mieux, etc. Et effectivement, j'ai dû passer à côté de quelque chose. Parce qu'il semblerait, en tout cas, que j'ai été plutôt une maman, ce que je voulais absolument éviter. Je me suis retrouvée avec des sentiments et des instincts maternels, tu ne peux pas imaginer.
C'est lié aussi à l'intensité des relations qui sont créées dans ce type de contexte.
Oui, mais non. Dans un monde un peu protégé comme celui du monde urbain, on était dans une bulle. Dans une bulle qui manifestement était confortable. Dans ce contexte-là, oui, je les rejoins complètement. Dans ce qu'il va bientôt falloir qu'on appelle la vraie vie, je ne suis pas convaincue.
Si il devait rester, s'il y a un morceau de musique qui, à chaque fois que vous l'entendrez maintenant pendant tout le reste de votre vie, associé à cette expérience, ce serait lequel ?
Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. C'est des moments de complicité qui se révèlent dans cette musique-là. Après, il faudrait que tu tires toute la pelote. Ouais.
Mais la pelote, personne ne la tirera jamais, à part vous, à part le groupe des Déviants.
Oui, c'est possible, mais c'est ça qui fait la magie aussi.
Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu, nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux.
Vous retournerez en Antarctique ?
Est-ce qu'il faut espérer retourner en Antarctique en sachant qu'on a peu de chances pour que ça arrive ? Je ne suis pas sûre. Je pense aussi que c'est un continent qui est tellement marquant que je n'aurais pas forcément besoin d'y retourner de sitôt pour que toutes les leçons que j'ai pu y apprendre et toutes les images que ça a engrangées, je pense qu'elles vont pouvoir alimenter ma vie entière. J'oublierai pas.
En Antarctique, un reportage de Nicolas Martin réalisé par Yvon Croisier, avec Corentin Burban, Delphine Ménard, Christophe De Santos, Audrey Falcon, Audrey Tesser, Tony Aubry, Quentin Perret, Laurent Père, Raphaël Masson, Romain Vérité, Quentin Sell et Hélène Larmé. Vous pouvez retrouver l'intégralité des 10 épisodes en podcast ou sur le site de France Culture, franceculture.fr.